Bonjour à tous et je vais vous parler donc de la formation dans le domaine de la compréhension. Sur mon diaporama, vous voyez, j'ai indiqué la suite parce que bien sûr, c'est un travail qui s'inscrit dans une durée, qui s'inscrit dans une progression, qui s'inscrit aussi dans une collaboration avec les collègues des équipes de Bordeaux et de l'équipe de Patrice Gourdet tout à l'heure. Et vous avez vu à quel point cette collaboration et ces rencontres que nous avons pu avoir nous nourrissent les uns les autres. Donc, une recherche en progression, naturellement, il y a des redondances par rapport à ce que vous avez pu voir et sur les conférences de l'année dernière. Et je salue aussi vos réponses au questionnaire parce que je les ai trouvées extrêmement intéressantes sur les difficultés rencontrées du côté des enseignants, du côté des formateurs. Et vous allez voir que nous avons les mêmes préoccupations, même si nous n'avons pas toutes les réponses. Donc j'espère en tout cas que nous avons là des terrains de discussion communs. Donc comme tout à l'heure vous l'ont présenté les collègues sur la maîtrise de la langue, donc sur la compréhension, nous sommes également une équipe pluricatégorielle, donc située dans le 95 de Val d'Oise, avec des formatrices, des enseignantes, des conseillères pédagogiques, des IEN, des maîtres formatrices. Donc notre équipe est constituée actuellement de 6 personnes. Voilà, je vous ai mis les noms. Et surtout, mais aussi, c'est pas surtout seulement, c'est aussi. Il y a tous les collègues, toutes les collègues du 95 qui nous ont ouvert leur classe. Et là, j'ai cité quelques noms, mais elles sont vraiment les chevilles du travail que nous présentons, puisque sans leur classe, eh bien, il n'y aurait pas tout ce que nous avons pu récolter et ce que je vais donc vous présenter. Donc, je suis toute seule aujourd'hui et demain à Lyon. Mes collègues s'excusent pour des tas de raisons que vous connaissez bien, contraintes institutionnelles, mais aussi malheureusement aussi des contraintes personnelles de dernière minute, eh bien, elles n'ont pas pu m'accompagner, mais elles sont de tout cœur. Je reçois des textos depuis hier soir et ce matin, donc elles vous saluent, elles s'excusent, et vous comprendrez que le discours là que je porte, en quelque sorte, la présentation que je fais, se fait au nom donc des 6 personnes du groupe. Voilà. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, tout d'abord, un rapide rappel, mais malgré tout très utile, des constats liés à la recherche d'écrire et en mettant le lien entre ces constats, bien sûr, et les questions de formation. Ensuite, je vais poser un cadre didactique. Un cadre didactique absolument important. Parce que pour nous, eh bien, s'il n'y a pas de cadre didactique, il n'y a que des recettes. Et justement, c'est ce que nous voulons éviter, c'est-à-dire que nous voulons que les formateurs aient un bagage, en tout cas une réflexion sur ce point. Bien sûr, je vais vous présenter très brièvement des canevas d'enseignement, donc qui répondent à des questions de métier, selon l'expression de l'IFE. Et puis, je reviendrai un petit peu sur des gestes adaptés. Ce matin, c'était l'une des questions. Et en effet, nous aussi, nous réfléchissons beaucoup sur comment pouvons-nous adapter des gestes d'enseignants, pour l'instant, nous n'en sommes pas encore aux gestes de formateurs, mais en tout cas des gestes d'enseignants à l'objet enseigné. Et puis, je vous parlerai très brièvement de nos projets. Voilà. Alors, le point de départ, donc la recherche d'écrire au CP. Patrice vous l'a présenté, je ne reviens pas du tout dessus, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est ce que nous ont appris les observations, notamment les moyennes des tâches. Vous savez, nous avions 9 tâches. Je vous renvoie donc aux différents supports qui vous les présentent. Je ne reviens pas dessus. Ce que nous apprennent aussi les évaluations et, entre guillemets, donc l'efficacité, c'est-à-dire dans quelles conditions accompagne-t-on les élèves qui ont le plus besoin de l'école pour qu'ils réussissent davantage. Les constats, tout d'abord, sur les durées. Alors, j'espère ne pas parler trop vite, mais voilà, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à vous raconter, donc forcément, j'ai un peu tendance à accélérer. Donc, les constats sur les durées. Premier constat, peu de temps accordé à l'enseignement de la compréhension en moyenne, puisque ce matin, Patrice vous a montré les différents pourcentages. Eh bien, le temps de la compréhension représente 16% du temps global alloué au lire-écrire. C'est très peu, mais c'est un temps en moyenne, puisque nous avons de grandes disparités. Dans ce temps, le deuxième point, c'est qu'il y a peu de temps accordé aux pratiques qui visent l'élaboration du sens et l'interprétation. Il y avait deux tâches particulièrement. Les tâches C6 et C7, qui s'appellent comprendre l'implicite, interpréter. Comprendre l'implicite, interpréter, on se dit que c'est quand même l'essentiel d'un travail de compréhension. Or, ces tâches représentent 4% du temps de la compréhension en moyenne, donc 4% de ces 16% en moyenne, et elles sont absentes dans près de 50% des classes. Les tâches écrites, individuelles par contre, sont les plus fréquentes. C'est la tâche écrite. Les tâches écrites, nous les avions regroupées sous l'étiquette C8, réaliser une tâche écrite impliquant la compréhension. Cette tâche représente 40% des 16% du temps de la compréhension, en moyenne. En moyenne, parce qu'il y a une très grande diversité des pratiques. Vous voyez déjà un paysage qui se dessine, qui nous a fortement interpellés, nous aussi. Les effets. Les effets, c'est-à-dire comment ces temps, ces pratiques, favorisent ou non la réussite des élèves. Donc, le temps cumulé de toutes les tâches de compréhension n'a pas d'incidence sur les progrès des élèves. Cependant, dans les classes dans lesquelles on accroît la durée du temps consacré à la compréhension, fait progresser les élèves les plus faibles. C'est-à-dire qu'il y a certaines classes, qui sont partir de zéro, qui travaillent la compréhension, mais qui, dans le courant de l'année, vont augmenter ce temps. Nous avons vu que cet effet, que cette progression, avait un effet sur la réussite des élèves. Et surtout, même si les chiffres sont relativement faibles, l'augmentation des tâches d'élucidation du sens, ce qui pour nous allait de C2 à C7, débattre, négocier, expliquer, faire un rappel de récit, et ainsi de suite, l'augmentation de ces tâches faisait progresser les élèves les plus faibles ou intermédiaires. Je vous renvoie au rapport, c'est dit en toutes lettres dans le rapport, ce sont des effets intéressants. Mais les tâches écrites et solitaires, C8, ne font pas progresser les élèves. Quel que soit le sens dans lequel nous avons pu les calculer, nous n'avons mesuré et trouvé aucun effet de ces tâches sur les progrès des élèves. Par contre, comme cela a été dit ce matin, je le rappelle, le travail sur le lexique notamment, sur la morphologie, et la lecture de livres, ce sont des pratiques qui font progresser les élèves en compréhension et surtout les élèves initialement les plus faibles. Je reste un tout petit peu dessus parce que je vois que vous le regardez avec beaucoup d'intérêt, mais ce sont des résultats qui interpellent naturellement. Qu'est-ce que nous pouvons en dire ? Que ce constat est paradoxal. En effet, nous remarquons que les pratiques les plus courantes, C8, sont les moins efficaces. Et nous remarquons que les pratiques les plus efficaces, de C3 à C7, sont les moins courantes. Voilà. Ça, c'est une vraie question de formation. C'est-à-dire que si on n'accompagne pas les enseignants, ils ne le découvriront pas par eux-mêmes. Nous avons également remarqué que, la compréhension dépend des autres apprentissages, lexiques et pratiques culturelles, mais pas seulement de la maîtrise du code. Je reste un tout petit peu dessus, simplement pour vous montrer ce qui nous a semblé être un résultat paradoxal. Voilà. Tous ces résultats, vous les avez dans le rapport, vous les avez également dans les conférences de l'année dernière, donc je ne reviens pas plus dessus. Si nous regardons maintenant sur les résultats des élèves aux évaluations. Donc, vous voyez, pour la compréhension, nous avions évalué trois moments, comme tout le monde, début CP, fin CP, fin CE1, mais nous avions évalué donc le vocabulaire passif et les phrases entendues, uniquement début CP, après ça n'avait pas de sens. Nous avions évalué les textes entendus, et c'est l'un des intérêts de notre recherche, c'est d'avoir évalué trois fois sur la capacité à comprendre des textes entendus. Ce qui fait que là, nous avons vraiment des résultats qui ne concernent que la capacité, que les compétences de compréhension, et non pas, comme c'est très souvent le cas, code plus compréhension. Il y avait 3 textes début CP, on en a gardé 2 fin CP, et on en a gardé 1 qui s'appelle Anatole, fin CE1. Donc, c'est, nous avons Anatole 3 fois, début CP, fin CP, fin CE1. Les phrases lues en autonomie, donc fin CP, fin CE1, et puis nous avions des évaluations de textes lus en autonomie, fin CP et fin CE1, qui nous avaient été proposés donc, par le ministère. Regardez ceci. Texte entendu, 49% début CP, 56% fin CP, 63% pourcentage des réponses justes, fin CE1. Il s'agit d'un même texte, et nous voyons qu'à la fin du CE1, les élèves, nous avons 63% donc de réponses justes. C'est relativement peu, nous sommes d'accord. Un texte entendu. Regardez par exemple, début CP, la différence de compréhension entre des phrases entendues et un texte entendu. Ça nous pose déjà un premier point, c'est que la compréhension, ça se travaille sur des textes et non pas sur des phrases. Or, vous avez actuellement des propositions ministérielles qui vont plutôt sur un travail à partir de phrases décousues, pour lesquelles on pose des questions. Or, que travaille-t-on réellement, hein ? On ne travaille pas suffisamment les compétences, naturellement, de compréhension. Regardez maintenant fin CP. Fin CP, et regardez les résultats des élèves sur un texte lu en autonomie. Ce que nous voyons, c'est que les résultats ne sont pas très, très éloignés. C'est-à-dire qu'il y a des compétences spécifiques de compréhension qui posent problème que le texte soit entendu ou que le texte soit lu en autonomie. Dernier point, pareil pour la fin du CE1, nous voyons bien que nous avons toujours ces compétences qui restent résistantes, quelle que soit la modalité de présentation. Donc, les compétences de compréhension sont spécifiques et doivent être absolument dissociées, en tout cas au moment où on travaille la compréhension, eh bien, elles doivent être dissociées des compétences de décodage. Les compétences en compréhension de texte doivent être travaillées de manière autonome. Ces compétences se travaillent sur des textes plutôt que sur des phrases isolées et des textes qui ont du sens, bien sûr. Ces compétences sont nécessaires dans l'acquisition d'une autonomie en lecture. Et là, je reprends une phrase que Roland Guagou a placée dans le rapport, mais que je trouve extrêmement intéressante. Mieux les élèves comprennent les textes qu'on leur lit, mieux ils comprendront les textes qu'ils lisent seuls. L'une de vos questions était celle de l'autonomie en compréhension, oui, mais l'autonomie en compréhension, ça se travaille, et ça se travaille à la fois sur le code, mais ça se travaille bien sûr sur des compétences spécifiques de compréhension. Je continue encore un peu sur ces évaluations. Naturellement, ce sont les réponses au texte Anatole. Donc le texte Anatole était un texte qui posait spécifiquement des questions liées à ce qu'on appelle les théories de l'esprit. Qu'est-ce que comprend, un personnage de ce que l'autre personnage n'a pas compris ou a compris, hein, donc, et l'élève devant comprendre, bien sûr, ce jeu, alors que le texte ne pose pas d'autres problèmes que celui-ci. Donc, aux 3 évaluations, nous voyons que les 10% plus faibles compreneurs ne parviennent pas à donner de bonnes réponses. Début CP, 26% d'élèves ne donnent aucune réponse. Fin CP, 13%. Fin CE1, ils sont encore 8%. Donc, c'est pour ça, on voit bien qu'on a nos 10% qui demeurent, hein, ce pourcentage, eh bien, ne parviennent pas à donner de bonnes réponses. Et fin CE1, 61% des élèves ne donnent pas de bonnes réponses à cette question inférentielle. C'était l'avant-dernière question. Pourquoi le nouveau voisin a-t-il peur? Il fallait comprendre, hein, le chien aboie pour avoir des friandises, mais c'est un nouveau voisin qui, au lieu de comprendre que le chien le salue pour avoir des bonbons, eh bien, a peur du chien. Et la question était, pourquoi le nouveau voisin a-t-il peur? Et vous voyez que nous avons 61% des élèves à la fin du CE1 qui ne donnent toujours pas de bonnes réponses. Nous sommes bien sur une question inférentielle, ce qui fait que l'une des principales causes de difficultés est bien liée au calcul inférentiel. Alors après, on pourrait mettre ça en relation avec les résultats PIRLS, avec voilà. Hein. Et alors, Si je résume tous nos constats, peu de temps accordé à l'enseignement de la compréhension en moyenne, peu de pratiques qui visent l'élaboration du sens et l'interprétation. Les principales causes de difficultés sont liées aux inférences. Les plus faibles lecteurs rencontrent des difficultés spécifiques à la compréhension et progressent peu. Et j'ai mis inégalité entre parenthèses parce que cela pose vraiment, vraiment un problème d'égalité ou d'inégalité sociale. Code et compréhension doivent être travaillés simultanément, mais nécessitent des activités et des supports spécifiques. Les compétences acquises en compréhension de textes entendus sont nécessaires pour comprendre les textes qui seront lus en autonomie. Le temps consacré à la réflexion sur la langue a un effet très significatif et très positif sur les performances globales des élèves en lecture-écriture, et cet effet est d'autant plus marqué que les élèves sont initialement les plus faibles. Et c'est même, comme le disait Patrice ce matin, l'effet le plus marqué, naturellement, sur la compréhension. Et les pratiques d'acculturation à l'écrit, les lectures d'albums notamment, ont des effets très positifs sur les performances globales des élèves, principalement sur les élèves initialement plus faibles. Voilà. Je vous ai fait un récapitulatif rapide, mais partant du principe que vous connaissiez maintenant les résultats de la recherche, des constats que nous avons pu dresser actuellement dans le domaine de la compréhension. Alors, eh bien, cela nous conduit à nous poser des questions, et des questions qui sont des questions de formation, naturellement, bien sûr. Ces questions de formation, nous les avons présentées, en quelque sorte, à partir de trois niveaux de réflexion qui rejoignent absolument les vocations de ce matin, enfin, qu'on a entendu ce matin. Premièrement, au niveau des élèves. Il va nous falloir tenir compte des difficultés d'apprentissage, c'est-à-dire pour eux, qu'est-ce que comprendre, comment apprendre à comprendre. Est-ce qu'un jour on leur dit comment on apprend à comprendre? Vous l'avez fait remarquer, on évalue plus souvent que l'on enseigne. Quelles compétences doivent-ils développer naturellement? Au niveau des enseignants, un vrai problème d'enseignement. Et des problèmes d'enseignement sur lesquels je reviendrai parce qu'ils sont, je dirais, importants pour ne pas dire plus. Qu'est-ce qu'enseigner la compréhension? Comment l'enseigner? Et qu'est-ce qui s'enseigne finalement? Quels gestes professionnels mettre en œuvre, bien sûr? Et puis toutes les autres questions, quel temps y consacrer dans la classe? Voilà, tout ce que vous avez répertorié ce matin. Les formateurs, et là ce sont des questions pour nous. Ce sont des questions pour nous parce que on se demande constamment, eh bien, qu'est-ce que former dans ce domaine? Et comment pouvons-nous former? Qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour former? Et comment, bien sûr, pouvons-nous élaborer des scénarios? Et vous voyez que l'idée, eh bien, c'est que ces formations aient de l'effet sur les progrès et les capacités, bien sûr, d'apprendre. Qu'est-ce que vont apprendre les élèves? Eh bien, c'est quand même le but. Voilà. Ce schéma est inspiré, en partie, bien sûr, des présentations de l'IFE, mais nous l'avons trouvé très fonctionnel, finalement, pour penser nos canevas. Ça va? Je vous empêche de dormir, parce que comme c'est juste après le repas, voilà, je maintiens un petit niveau d'alerte. Voilà. Alors, eh bien, nous avons envisagé l'élaboration de deux canevas d'enseignement. Deux canevas d'enseignement, certains ont déjà entendu ou déjà vu, voilà. Nos deux canevas sont les suivants. Je vais vous les présenter après plus longuement. Le Visibiléo, très joli nom, vous verrez que nous devons ce nom à Bernadette, qui rit déjà parce qu'elle sait ce que je vais dire. Voilà. Lors d'une réunion, Bernadette nous a dit, mais en fait, puisque vous rendez visible, appelez-le le Visibiléo, c'était très bien trouvé. Et une pratique plus ancienne, la lecture pas à pas, que nous avons pu reprendre parce qu'elle nous paraissait extrêmement intéressante. Ces deux canevas permettent, je vais reprendre tout cela, pas tranquillement, mais je vais le reprendre, là aussi pas à pas. Ces deux canevas permettent aux élèves de résoudre les inférences, d'anticiper et de piloter sa compréhension. Ça nous a paru être les moments, les choses les plus importantes. Vous verrez aussi que je reviendrai sur quatre actions nécessaires, clarifier, mémoriser, questionner. Et ce qui nous paraît intéressant, c'est de devenir un lecteur actif et d'élaborer son propre parcours de lecteur. Je vais revenir sur tous ces points. Ces deux canevas permettent aux enseignants d'accompagner l'élaboration de la représentation mentale. Vous en avez parlé ce matin, en effet. De rendre explicite le travail de compréhension et d'ouvrir un espace de réflexion et d'interprétation. Alors, comment avons-nous pensé la formation dans ce cas? Eh bien, notre hypothèse est la suivante. C'est que c'est en travaillant à partir des canevas d'enseignement que l'on pouvait discuter, que l'on pouvait échanger sur l'enseignement et l'apprentissage de la compréhension et que l'on pouvait apporter des réponses. Notre principe, donc, c'est de co-construire, à partir des canevas, eh bien, de co-construire des démarches. Ce qui permet de faire émerger les représentations, les problèmes de métier, les dilemmes, bien sûr. Qu'est-ce que ça représente pour moi, hein, d'enseigner la compréhension? Est-ce que je suis d'accord? Voilà. Et de s'interroger, bien sûr, sur les modalités d'accompagnement des élèves. Scénario de formation, donc ça nous le reprendrons hein, dans les ateliers demain, je fais un petit effet d'appel aussi, hein, il n'y a pas de raison, un petit encart publicitaire, voilà. Alors, nous le reprendrons demain et vous verrez, demain je vous le présenterai, il y a 5 étapes. La première étape c'est de faire émerger le problème de métier, je ne vais pas les détailler là bien sûr. La deuxième étape c'est de co-élaborer des séances à partir des canevas. La troisième étape, bien sûr, c'est d'aller expérimenter dans sa classe. La quatrième étape, c'est de revenir sur sa pratique et de discuter des questions, des dilemmes, de tout ce qu'on a pu rencontrer comme problème. Et la cinquième étape, naturellement, c'est de repartir avec des activités pour la classe et de faire un bilan. Ça, c'est notre cadre. Le cadre, eh bien, qu'allons-nous proposer aux formateurs? Nous allons proposer une boîte à outils. Une boîte à outils qui sera mise sur le site de l'IFE. Et cette boîte à outils, qui est une idée porteuse, eh bien, sera constituée de cela. Au centre, bien sûr, notre projet, enseigner la compréhension. Vous voyez que vous avez en haut, ce que je souligne avec ma souris, le cadre de tiroirs. Voilà, deux tiroirs. Le tiroir avec le cadre théorique, dans lequel nous allons mettre tout un tas d'articles qui confortent ces démarches. Et puis, bien sûr, les textes officiels, naturellement. Nous mettrons aussi en bas, regardez, une banque de textes et nous mettrons tout un tas de ressources. Nous en avons déjà un certain nombre. C'est mieux sans. Voilà. Donc, une banque de textes et des ressources de formation, des vidéos. Je vous montrerai quelques exemples d'arrêt sur image, tout ce qui peut servir naturellement. Vous voyez là, nous aurons les deux canevas d'enseignement. Les canevas sous deux formes, une forme très, très détaillée et une forme très simple. La forme simple, c'est pour justement travailler en formation, hein, c'est-à-dire on donne juste une forme simple et après on détaille. Et nous aurons les scénarios, avec là aussi, selon les choix des formateurs, soit un scénario très simple pour ceux qui aiment bien juste avoir des pistes, et un scénario très détaillé pour ceux qui aiment bien avoir plus d'éléments. Voilà. Donc, c'est en cours d'élaboration. Il y a déjà pas mal de choses de faites. Hein. Nous avons bien avancé en tout cas là-dessus. Donc, je vais vous montrer un certain nombre d'éléments hein, qui vont plus ou moins figurer. Mais avant cela, je voudrais vous présenter ce qui nous paraît indispensable. C'est, bien sûr, le cadre didactique. Un cadre didactique et qui s'inscrit au croisement de plusieurs courants. Et ça, je le présente particulièrement en accord avec Patrice parce que ça nous paraît tout à fait important. Tout d'abord, enseigner et travailler sur la compréhension. Nous nous appuyons sur les recherches en psychologie cognitive et en neurosciences, tout ce qui concerne le fonctionnement du cerveau. Nous nous appuyons aussi sur toutes les recherches en sciences du langage, ce qui concerne le fonctionnement de la langue. Et puis, nous nous appuyons sur toutes les recherches en littérature, enfin pas sur toutes, mais sur un certain nombre, c'est-à-dire le fonctionnement des textes. Mais vous voyez bien que ni les recherches sur le fonctionnement du cerveau, ni les recherches sur le fonctionnement de la langue, ni les recherches sur le fonctionnement des textes ne peuvent être appliquées telles que. Il faut naturellement passer par les apports de la didactique, c'est-à-dire analyser ce que nous apportent ces domaines, mais les mettre en place pour analyser les processus d'enseignement et d'apprentissage. Donc c'est vraiment ce que nous voulons faire, et vous voyez que nous sommes à des croisements, hein, naturellement, et nous nous nourrissons donc d'un certain nombre de choses. Nous nous nourrissons aussi de nombreux travaux, et notamment des travaux anglo-saxons qui confortent nos conclusions, et vous allez comprendre pourquoi. Ces travaux anglo-saxons parlent des pratiques efficaces qui visent à accroître et mobiliser les connaissances des élèves. Absolument, indispensable. Motiver la lecture en amont, c'est-à-dire créer ce qu'ils appellent, enfin ce qu'appellent les littéraires, ce que les littéraires appellent un horizon d'attente, savoir ce que l'on s'attend à lire. Apprendre à élaborer une représentation mentale, c'est-à-dire déployer le sens du texte, hein, se le représenter mentalement, apprendre à contrôler sa lecture, rendre visibles les stratégies. Alors là, un enseignement explicite, et c'est vrai qu'il y a des discussions autour de ce terme d'explicite, je ne reviendrai pas dessus aujourd'hui, développer les compétences inférentielles, notamment les liens de causalité, faire discuter et débattre les élèves, les rendre actifs, développer le vocabulaire et les connaissances sur la langue, varier les types de textes et les modalités de lecture, intégrer lecture et écriture, et surtout, observer, évaluer le processus plutôt que le produit. Hein, c'est-à-dire, comment font-ils pour comprendre, et non pas, eh bien, est-ce qu'ils ont compris ? Oui, non. Bien sûr, c'est intéressant, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment ils s'y sont pris. Voilà. Cet ensemble de travaux, j'ai pris par exemple un article de 2011, mais vous voyez que ces travaux sont extrêmement intéressants parce qu'ils nous permettent, hein, d'avoir une assise théorique qui va dans le sens de ce que nous voulons faire. Un autre point aussi important et qu'il faut avoir en tête, c'est que comprendre est une activité invisible. Quand un élève lit, ce qu'il est en train de faire, vous n'en savez rien. Mais même pour lui, c'est souvent aussi une activité invisible. Ce qui veut dire que le but, c'est que pour les élèves, eh bien, il faut les amener à saisir ce qu'il faut faire et ce qu'ils sont en train de faire pour comprendre. Mais pour les enseignants, eh bien, il faut rendre visibles les processus en accompagnant les élèves. Et surtout, il nous semble, et vous verrez que nos propositions vont dans ce sens, ne pas laisser les élèves seuls face à des tâches complexes, mais bien les accompagner. Voilà. Je vous ai posé les premiers points du cadre. Il nous faut maintenant revenir sur 2-3 points. Du côté des élèves, eh bien, développer des compétences de compréhension. Et pour évoquer ces compétences de compréhension, eh bien, nous nous sommes appuyés sur un certain nombre de travaux. Mais nous les avons aussi revisités à notre manière, parce qu'à mesure que nous avons avancé dans nos canevas, hein, d'enseignement et dans nos scénarios de formation, eh bien, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des choses qui n'apparaissaient pas quand on définissait les compétences. Alors, 4 domaines de compétences à développer. Nous avons mis au centre ce qui nous semble être fondamental. C'est-à-dire que comprendre, c'est élaborer une représentation mentale. C'est notre point de départ. Pour cela, les élèves, il faut développer des compétences qui relèvent des domaines de connaissances. Qu'est-ce que les élèves connaissent sur la langue, sur le lexique, hein, on l'a bien vu tout à l'heure avec la présentation d'Elsa, sur les textes, sur le monde, c'est-à-dire des connaissances, tout ce qui est de l'ordre du référentiel, naturellement. En face de cela, il nous faut également développer des compétences du domaine des capacités cognitives, de la mémoire. Nous sommes plutôt du côté de la psychologie cognitive, le raisonnement, la résolution de problèmes et toutes les activités inférentielles. Tout cela ne peut fonctionner que grâce au domaine, aux compétences liées à la métacognition, l'autocontrôle, la régulation, et j'ai mis une ellipse pour montrer à quel point c'était lié. Mais ce que nous avons ajouté, eh bien, c'est ce qui relève du domaine de l'activité du lecteur. Trop souvent, on oublie cette activité, on oublie de la définir. Qu'est-ce que c'est l'activité du lecteur ? Le lecteur est constamment en transaction avec le texte. Transactions qui sont dans le domaine français, qui ont été développées par exemple par Tervagne. Nous avons un beau travail sur les transactions. Le lecteur met en place des stratégies d'appropriation naturellement. Il négocie le sens du texte, il le négocie avec lui-même, il le négocie aussi avec les autres. Ces temps de négociation sont des temps extrêmement importants. Et bien sûr, les émotions, est-ce que ce texte me plaît, ne me plaît pas, pourquoi, voilà. L'autre jour, je lisais, en prenant le TGV hier, je lisais un roman et le personnage principal m'agaçait terriblement. Eh bien, cet agacement fait partie de la lecture et fait partie aussi de la compréhension. Je ne vous le recommanderai pas, donc je ne vous en parle pas. Nous avons aussi tenu compte de 5 actions du lecteur. Et vous voyez que nous nous sommes vraiment centrés sur l'activité du lecteur. 5 actions qui sont clarifiées. En effet, le lecteur doit éclaircir les implicites, il doit faire des inférences. Questionner. L'idée de questionner le texte est une idée qui nous tient particulièrement à cœur. Parce que c'est en interrogeant le texte et sa cohérence que le lecteur peut contrôler sa lecture. Et vous verrez que notre dispositif de lecture pas à pas est vraiment un dispositif qui accompagne le questionnement du texte. Le lecteur doit également anticiper et piloter. Cela veut dire qu'il prévoit le déroulement, ce qui lui permet de contrôler sa compréhension. C'est parce qu'il pilote, parce qu'il prévoit, qu'il sait s'il a compris, pas compris, si ça fonctionne avec ce qu'il attendait ou pas. Il mémorise et il met en lien. C'est-à-dire qu'il va conserver les informations importantes et il va les mettre en relation les unes avec les autres, ce qui lui permet, bien sûr, d'avoir une représentation mentale. Et enfin, n'oublions pas, le lecteur va ressentir, il va mobiliser son expérience de lecteur, il va mobiliser ses émotions, mais aussi il va mobiliser son jugement. Or, vous savez que dans les évaluations internationales actuellement, l'une des plus grandes difficultés pour nos jeunes lecteurs français, c'est de donner son avis. Nous sommes bien sur ce travail du lecteur qui n'est pas peut-être suffisamment développé. J'avance encore du côté des enseignants. Notre cadre théorique du côté des enseignants, nous l'avons construit en présentant pour toutes les situations d'enseignement un canevas en 3 temps. On n'a rien inventé, on a pris Giasson, on a pris Brigodiot, on le retrouve dans d'autres textes. Ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. Sauf que il nous a semblé qu'on ne pouvait pas former des enseignants, leur proposer de mettre en place des canevas, si on n'avait pas ces 3 temps en tête. Le premier temps, c'est le temps de clarification. C'est-à-dire qu'avant de commencer, eh bien, on définit la tâche, on mobilise la mémoire didactique, on mobilise les connaissances lexicales et référentielles. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai insisté sur l'importance des connaissances. Et on commence déjà à élaborer une représentation mentale. J'insiste beaucoup là-dessus parce que vous, quand vous allez au cinéma, quand vous prenez un bouquin, vous avez déjà une petite idée de ce que vous allez voir, du genre, du style, pourquoi vous allez le voir. Vous connaissez l'auteur, vous connaissez l'histoire, c'est la suite d'eux, on vous en a parlé. Vous avez déjà des tas d'éléments qui vous permettent d'élaborer. Or, trop souvent en classe, on part du principe que il suffit de mettre les élèves avec quelque chose sous le nez et ça va démarrer. Voilà. Or, non, il faut de la cohérence, naturellement. Le temps 2, c'est le temps de la lecture, donc on va accompagner la lecture. On va rendre le texte accessible, et nos deux canevas ont comme objectif cette accessibilité du texte. On va aider à faire des liens, on va aider à élaborer une représentation mentale cohérente, et on va apporter des outils si nécessaire. Le temps 3, c'est celui de la mémoire didactique. Qu'a-t-on compris ? C'est-à-dire, quelle représentation mentale a-t-on de ce texte ? Comment a-t-on compris ? Et quelles procédures avons-nous utilisées ? Quel lien, bien sûr, établir avec nos expériences de lecture ? Ces trois temps nécessitent un gros temps de préparation. C'est ce qui est le plus difficile pour nos enseignants. Choisir le texte, analyser le texte, préparer les questions, préparer les outils, bien sûr, et bien sûr, des prolongements. Voilà. Je vous présente ce cadre parce qu'il est vraiment important. Il est vraiment important et les canevas que je vais vous présenter rentrent dans ces trois temps. Pour finir cette présentation, voilà par exemple un outil que nous mettons à votre disposition, mais que nous avons développé parce qu'il pose des questions, mais les réponses sont construites aussi. Il nous semble que pour préparer et pour choisir un texte, pour préparer une séance, il y a trois points de vigilance pour les enseignants à voir. Je vous ai mis la boîte à outils pour vous rappeler que c'est dans la boîte à outils. Voilà. Le premier, les lecteurs, ce qu'ils savent et ce qu'ils doivent comprendre. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans ce texte ? Donc, nous avons fait une représentation, bien sûr, une carte pour aider les enseignants à déterminer ce qu'il y a à comprendre. Les tâches didactiques, les modalités de lecture, les objectifs, comment je vais présenter cette lecture. Les supports, bien sûr, qu'il va falloir mettre en cohérence et, vous voyez, ajuster à ces points, à ces deux points précédents. Mais ce qui nous apparaît très souvent, et nous en parlerons pas mal demain, c'est que la plupart du temps, ce qui pose vraiment problème, c'est déterminer ce qu'il y a à comprendre dans les textes. Et nous en arrivons quelquefois à l'idée que les enseignants ont deux modes de lecture. Ils ont le mode de lecture personnel, où ils lisent en s'intéressant complètement au sens du texte. Et puis ils ont le mode de lecture scolaire, où ils ne lisent que pour ce qu'ils vont faire de ce texte. C'est-à-dire, ça rentre dans le thème, est-ce que c'est trop compliqué, est-ce que c'est long, voilà. Ils se posent des questions qui ne sont pas forcément celles du sens du texte. Si bien que, eh bien, comment accompagner la compréhension si on ne s'est pas posé la question de la compréhension de ce texte Donc, je l'expérimente régulièrement en formation, et régulièrement, eh bien, on constate en effet qu'il y a ces deux modalités de lecture. Voilà. Donc, je vais vous présenter... en débordant un tout petit peu, nos canevas d'enseignement pour aller un petit peu vite. Donc le premier, c'est la lecture pas à pas. Nous n'inventons rien. Annette Bon en 1982, Catherine Trottovron en 2002 parle de lecture à dévoilement progressif. Voilà, nous avons repris l'idée, mais nous avons aménagé parce que nous visons particulièrement donc le développement de toutes ces compétences de compréhension dont nous avons parlé. Donc ça a été testé très régulièrement en formation CAPASH, en formation KPI maintenant, depuis l'année dernière. Et puis, de grosses animations pédagogiques dans le 95 à Goussainville qui nous ont permis d'avoir des films et des supports. Et nous avons établi ce qu'on appelle une grammaire. C'est un terme IFE, mais c'est intéressant. Donc, qu'est-ce que la lecture pas à pas ? Le texte est découpé en fonction des nœuds de compréhension. À quel moment je vais m'arrêter, c'est-à-dire qu'est-ce qui va poser un problème de compréhension. Le texte est lu collectivement par l'enseignant. Mais l'enseignant, à chaque arrêt, ne pose qu'une question. Et cette question est une question inférentielle. C'est-à-dire que, plutôt que de demander quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV, quel est l'âge du capitaine, voilà, on va rester sur une vraie question, une question de sens. Les élèves donc vont émettre des hypothèses, donner leur point de vue, mais l'enseignant ne va pas valider. C'est la suite du texte qui valide. Et bien sûr, vous voyez que ce travail va accompagner l'élaboration mentale des élèves. Élaboration et contrôle aussi, parce qu'ils vont pouvoir voir s'ils contrôlent ou pas leur compréhension. Vous voyez que la lecture pas à pas, c'est un dispositif que personnellement j'apprécie énormément, qui fonctionne très bien, parce qu'il permet de faire des inférences, il permet d'établir des liens logiques, des liens de causalité, il permet de faire des prédictions, de s'assurer de la cohérence de ce qu'on est en train de se représenter et de comprendre. Il permet de mobiliser ses connaissances, de mobiliser ses expériences de lecture, et vous voyez, de rendre visible le travail de lecture. C'est vraiment une activité qui ouvre un espace de réflexion et un espace collectif. Nous avons donc proposé trois types, trois grandes familles de questions. Je ne vais peut-être pas vous les développer aujourd'hui, hein, mais nous avons soit des questions de rétrospection, que s'est-il passé, ou pourquoi cela s'est-il passé, des questions de clarification, qui est tel personnage, ou des questions d'anticipation, que va-t-il se passer. Vous voyez que nos questions sont des questions qui permettent absolument de faire des liens tout au long de la lecture. Alors, voici quelques outils que nous allons proposer. Si ma souris veut bien revenir. Excusez-moi. Voilà. Alors, voici quelques outils que nous allons proposer avec que nous avons vus donc, avec des CP à Goussainville lors des animations pédagogiques. Par exemple, des outils pour le formateur. Si je prends le temps de la lecture, le temps 2, vous savez, donne mon canevas en trois temps, temps de la lecture, donc l'enseignant questionne, recueille les hypothèses et fait justifier, mais ne valide pas, il reformule. L'élève fait des liens, des inférences, émet des hypothèses, justifie ses hypothèses, contrôle la cohérence de sa représentation mentale. Voilà ce que nous pouvons proposer. Des films, bien sûr, mais aussi ceci. Ce sont des capsules, des captations hein, de vidéos avec les retranscriptions. Là, l'enseignante, donc, je vous ai présenté le texte, hein, l'ogre, le loup, la petite fille et le gâteau. Et l'enseignante demande, on est en train de lire, elle s'est arrêtée, que va faire l'ogre? Il va ramener le loup. L'enseignante reprend, oui, pourquoi il va le ramener? Première hypothèse, parce que l'ogre a vu que la petite fille a peur, et il sait que les loups, ça mange les petites filles. Deuxième hypothèse, l'ogre, il va ramener le loup parce qu'il veut tout garder pour lui. Il ne veut rien laisser aux autres, c'est lui qui mangera la petite fille. C'est intéressant parce qu'on voit, ne serait-ce qu'à travers ces retranscriptions, donc là, par exemple, toutes les séances filmées sont retranscrites et à la disposition donc, des formateurs, ou sont en train de l'être, on voit que eh bien, les élèves élaborent une véritable compréhension uniquement par ce jeu, parce qu'il y a une question à chaque fois, et donc ils apportent des réponses. Ce que nous allons aussi vous proposer, c'est ceci, c'est-à-dire que nous allons utiliser des montages. Par exemple, si je prends mobiliser les connaissances, eh bien, trois exemples différents dans des classes. Comment le même moment peut être traité différemment avec tous les dilemmes, bien sûr, que cela pose, et toutes les discussions. Donc, trois temps différents, voilà, je vous les montre sans vous les développer, mais vous voyez que c'est intéressant parce que pour chaque moment, eh bien, nous pouvons comparer différentes manières de le traiter dans les classes. Bien sûr, c'est intéressant de le faire avec les films que vous rapportent, que ramènent les enseignants, mais c'est extrêmement intéressant aussi d'avoir ces outils déjà sous la main. Voilà, donc comparer les différents moments du canevas et faire émerger les dilemmes, les choix. Pourquoi a-t-il fait ça? Est-ce que je suis d'accord? Pas d'accord? Bien. Sur ce modèle, la modalité de lecture, donc de la lecture pas à pas, je voulais vous montrer ceci, parce que c'est une modalité de lecture qui enrôle très fortement les élèves. Regardez, dans un CP de Goussainville, donc, le maître, un tout jeune maître, en tout cas tout jeune dans le métier, a présenté l'ouvrage, voilà, a présenté le livre en lecture pas à pas aux élèves, et nous sommes à la fin. Regardez, donc, découverte de la fin de l'histoire. Tous les élèves sont debout. Ils se sont précipités pour connaître la fin de cette histoire. Or, ce film est extrêmement intéressant parce qu'au début, ils sont loin, 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 loin. Et à mesure que le maître les accompagne avec sa question et les hypothèses qui se construisent petit à petit, eh bien, on voit comment, à la fin, tous ces élèves sont debout pour découvrir la fin de l'histoire. Donc, c'est une modalité qui nous paraît extrêmement intéressante. Voilà. Je vous présente maintenant le Visibiléo. Donc, le Visibiléo est né dans un groupe départemental, le groupe maternel. Il a été alimenté par d'autres démarches et par de très nombreuses questions, et j'en reçois encore aujourd'hui. Donc, baptisé par Bernadette, bien sûr. Et puis, il a été très fortement retravaillé et testé dans les classes. Et il est toujours, si je puis dire, en cours d'amélioration, hein, donc ne vous privez pas, bien sûr. Il répond à un véritable problème de métier. Donc, comment travailler la compréhension d'un texte? Voici un exemple. Plusieurs classes de CP et de CE1 ont travaillé sur le conte Le Chaboté et sur les émotions des personnages. Ils se sont appuyés sur Lectorino, Lectorinette, que je leur conseille, hein, surtout quand on démarre avec peu d'outils. C'est vraiment un très, très bon support. Et dans une classe de CE1, eh bien, les élèves se sont arrêtés, après explication, analyse du texte, discussion, ils se sont arrêtés sur cette représentation. Le lapin, le chat apporte un lapin et dit « Voici un lapin que monsieur le marquis de Carabas m'a chargé de vous offrir ». Et les élèves, donc, sont chargés en groupe de répondre à cette question. On a travaillé le texte, on l'a lu, on a répondu aux questions, on a travaillé, surtout, je vais vous revenir, mais sur les sentiments des personnages. Voici ce que répondent les élèves de CE1. Travail en groupe, classe entière. Le chat pense que le roi veut lui offrir quelque chose ou qu'il est gentil. Le chat pense que son maître a de la chance. Il répète la question. Voici un lapin que monsieur le marquis de Carabas m'a chargé de vous offrir. Le chaboté pense qu'il va voir le roi pour que le roi soit fier de lui. Que le roi soit fier de lui. Le chat pense qu'il aura une récompense. Voilà. Constat donc des enseignantes, appel au secours, ils ne comprennent pas. Hein. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation, naturellement, avec des enseignants qui n'ont pas compris? Avec des élèves qui n'ont pas compris. Non, les enseignants, je ne sais pas. Appréciez quand même le lapsus. Hein. Voilà. Mais en tout cas, les enseignants n'avaient pas compris pourquoi les élèves n'avaient pas compris. Et on s'interroge et on se dit, on va travailler. Donc, ce que je ne vous ai pas montré, c'est la diapo précédente, qui est celle-ci. C'est que on travaille sur les émotions des personnages. Voilà. Le seul problème, c'est que les émotions, elles ne font pas avancer le schmilblick. Et qu'il y a une confusion. Et c'est pour ça que j'ai dit s'approprier les outils. Parce qu'il y a de très bons outils que l'on ne sait pas s'approprier. Est-ce que les émotions font avancer les choses? Ce chat, bon, il dort tranquillement, il prépare sa ruse, mais le lapin, lui, il va se faire manger dans quelques minutes, or, ou dans peu de temps, en tout cas, il va se faire tuer. Or, les élèves qui s'apesantissent sur il est content, pas content, joyeux ou autre, vous voyez bien qu'on ne distingue pas là l'important de ce qui est important de ce qui est secondaire. Ce qui est important, naturellement, c'est le mobile d'action. Pourquoi le chat agit-il de la sorte? Donc, on a travaillé comme ceci dans une classe de CE1. On a choisi avec les élèves ce qui est important à chaque fois de conserver, pour chaque épisode. Donc, sous forme d'illustration que l'enseignante avait préparée. Et puis, au fur et à mesure, on dessine le parcours de lecture. Et on retrace les liens logiques entre les événements. Ça donne ceci. Vous voyez, ça, c'est le début. À la fin, cela donne ça. Nous avons le parcours de l'histoire. Mais ce qui est important, c'est qu'on va y ajouter le parcours du lecteur. Que veut le chat? Que fait-il? Et là, on va tirer un certain nombre de flèches parce qu'on va comprendre que ce qu'il veut, le chat, c'est avoir une vie tranquille et que pour avoir une vie tranquille, il va monter tout un scénario pour faire croire que son maître, c'est le marquis de Carabas et que ce marquis de Carabas peut épouser le roi et que du coup, le chat fils du roi, enfin le chat du roi, du gendre du roi, pardon, je vais y arriver, eh bien, sera bien tranquille. Voilà. Vous voyez que nous avons vraiment modifié la manière de concevoir ce travail et j'avance un petit peu, mais j'ai définitivement perdu ma souris. Voilà, ce qui est vraiment dommage. Bon. Alors, le Visibiléo, vous voyez, c'est la trace élaborée avec les élèves. Ça permet de rendre visible l'intégration des informations, y compris implicites, et leur organisation. Et vous voyez que ce Visibiléo, il s'intègre à la suite des activités. Que vous preniez des activités qui sont sur des supports, par exemple, comme Lectorino, Lectorinette, voilà. Hein. Que ce soit des textes que vous lisez, que vous... Voilà, toutes les présentations, mais ça permet, bien sûr, de formaliser la présentation. Donc, rendre visible l'intégration des informations, y compris implicites et leur organisation, permettre de différencier les pensées et les paroles des personnages, d'en comprendre les intentions et les mobiles d'action, ce qui est quand même vraiment l'intérêt du récit, formaliser visuellement le modèle de situation, soutenir la mémorisation au service de la compréhension, matérialiser les liens logiques, et cet outil vraiment permet à la fois de matérialiser la structure de l'histoire, mais aussi, et ce qui nous paraît très important, le parcours du lecteur. Hein, parce que le lecteur doit combler les blancs du texte, et ce sont ces blancs qui sont matérialisés par ces flèches. Est-ce que ça va ? Oui ? Voilà. J'avance un petit peu. Donc là aussi, nous avons fait une grammaire du visibiléo. Et cette grammaire du visibiléo, eh bien, vous voyez, j'ai un vrai souci de souris, décidément. Voilà. Hein. Elle comporte, on propose de différencier les couleurs, c'est-à-dire de mettre le parcours narratif en bleu, les mobiles d'action d'une autre couleur, là j'ai mis jaune par exemple, mais surtout, à la fin, de tirer avec les élèves, de, ou en cours de route, hein, en tout cas d'exprimer les liens de causalité, c'est-à-dire le parcours du lecteur, et de les mettre d'une autre couleur. Vous voyez, je vous ai mis des flèches dans les deux sens. D'une part, cela arrive parce que, mais d'autre part aussi, c'est parce qu'il voulait cela qu'il a fait telle ou telle chose. Et là, vous avez vraiment des lecteurs qui peuvent, redonner, redire le texte, bien sûr. Je passe un tout petit peu vite, excusez-moi. Vous le verrez, c'est... Voilà, mais c'est parce que j'ai perdu ma souris, normalement, vous ne deviez même pas les voir. Alors, voilà par exemple, dans cette classe de CE1, vous avez vu le travail sur le visibiléo, il est en cours de construction, et là, les élèves, eh bien, vont faire un rappel de récit. Regardez-les, et voilà ce qu'ils disent. Les deux élèves, donc, en sont à l'épisode de la noyade. Le premier dit, ben, le chat, il jette les vieux vêtements, il veut que son maître y soit bien habillé, que le roi lui donne des beaux vêtements. Et le deuxième ajoute, ben oui, il pense que le roi va croire que son maître, c'est le marquis de Carabas, que c'est un ami, il va lui donner des beaux vêtements. Il avait offert un lapin au roi, il a dit que c'était de la part du marquis de Carabas que c'était un ami. Dites-moi, intéressant, parce que je reviens sur ma diapo précédente, vous voyez où ils en étaient ? Eh bien, ils ont fait marche arrière pour comprendre ce qui s'était passé dans cette histoire. C'est-à-dire qu'on est sorti du cadre chronologique habituel et que là, on est vraiment sur un déroulement logique qui est le vrai déroulement du lecteur. Hein. Voilà. Quelques exemples. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les collègues s'en emparent comme ils le souhaitent. Regardez, voilà par exemple un visibiléo en CP. Voici un visibiléo en CM2, Ulysse. Et vous voyez que ce n'est pas du tout pareil, mais en tout cas, l'idée est la même. À chaque fois, on différencie ce qui relève du texte, ce qui relève des questions du lecteur et de son parcours. Voilà. Pour nous, c'est vraiment ce qui est important. Son nom, Visibiléo, rendre visibles les liens logiques. Alors, je vais finir avec ceci. Des liens, des gestes professionnels adaptés à la compréhension. Une collègue en IM Pro, avec un petit groupe d'assez grands, hein, bien sûr, IM Pro, trisomiques ou des handicaps multiples, déficiences et autres, marqués, entreprend, à la suite des cours, j'en suis ravie, de travailler avec eux, le cheval de Troie. Sacré défi, vous vous en doutez, qu'est-ce qu'on fait ? Or, c'est quand même aussi un défi culturel et d'éducabilité, si je puis dire, de se dire que, eh bien, ses élèves, au moins quelqu'un, une fois, leur aura parlé du cheval de Troie. Elle va préparer des outils simples, bien sûr, reconnaître les personnages, les nommer, comprendre les relations avant l'épisode, hein, donc Hélène, la femme de Ménélas, voilà. Des choses toutes simples, hein, qui parlent, voilà. Et puis on se rend compte, je vais au fond de sa classe parce que vraiment je suis éberluée, c'est magnifique, on se rend compte que tout bêtement, la notion de forteresse est incompréhensible. Qu'est-ce qu'une forteresse? Qu'est-ce qu'un siège? Et comment comprendre la ruse si on n'a pas compris ce que c'était? Donc, eh bien, elle va matérialiser par une maquette. Une maquette avec dedans, dehors. Eh oui. Comment faire pour rentrer? Qu'est-ce que ne pas pouvoir rentrer? Voilà. Vous voyez que ça, eh bien, assise au fond de sa classe, j'ai dessiné ce qui me paraissait être les gestes professionnels. Et bien sûr, adaptés à l'objet enseigné. Si on veut accompagner la représentation mentale, il faut d'abord clarifier, bien sûr, la tâche, mobiliser les savoirs et savoir-faire. Qu'est-ce qu'ils savent déjà? Qu'est-ce que je peux leur apporter? Bien sûr. Rendre le texte accessible. Et vous voyez, je vous ai donné cet exemple parce que c'est un bel exemple de rendre d'accessibilité, hein, d'un travail d'accessibilité. Aider à visualiser aussi. Rendre visibles les liens avec ses propres connaissances, plutôt que de faire comme si ça allait de soi. Rendre visibles les processus, les stratégies, faire reformuler, préciser, questionner, relancer pour clarifier, donc aider à faire des inférences, et ouvrir un espace de réflexion. Voilà. Il nous a semblé, là, alors c'est à compléter, hein, bien sûr, mais en tout cas, pour l'instant, voilà où nous en sommes, il nous a semblé que eh bien, il y avait des gestes qui étaient totalement adaptés à cet outil, à cette démarche, hein, à l'enseignement de la compréhension, et qu'on pouvait travailler avec les enseignants là-dessus. Voilà, je vous avais promis en conclusion, ça va sur les gestes, hein, je vous avais promis en conclusion nos projets. Donc nos projets, c'est de compléter le travail que nous sommes en train de faire et de le compléter avec les équipes, bien sûr, du lire-écrire, l'écriture, le lexique, mais aussi l'oral. Et puis, nous en avons un autre, bien sûr, c'est diversifier les supports, parce que là, nous sommes sur le narratif, mais il n'y a pas que le narratif dans la vie, et aussi, bien sûr, évaluer nos supports et la compréhension. Donc, en chantier, écrire pour comprendre. Nous nous sommes interrogés sur écrire pour comprendre. Et nous avons déterminé que l'on pouvait, par exemple, donc là, on n'invente rien, on reprend des tas de travaux, et ceux de Bernadette aussi, écrire pour créer, imiter, relater, écrire pour résoudre un problème de lecture, écrire pour garder trace, écrire pour partager sa lecture, écrire pour donner son avis, pour penser, et bien sûr, dans quelle situation. Et là, ne prenez pas la photo tout de suite, la suite est à venir. Nous avons essayé d'apporter des exemples. Donc, nous sommes au CP, les dictées à l'adulte, les écritures essayées, les ateliers d'écriture, écrire pour penser, toutes les notes en cours de lecture, le journal de travail. Vous allez me dire, ils sont trop petits pour le faire. Je vais vous répondre non et je vous donnerai des exemples. Écrire pour partager sa lecture, les tableaux récapitulatifs, les fiches de personnages, les affiches pour la classe, les schémas, tout ce que l'on peut partager. Écrire pour garder trace, le carnet de lecteur, très bel outil. Le carnet de citation aussi, on peut découper, coller des citations. Voilà. Écrire pour résoudre un problème de lecture, eh bien, je vais vous montrer par exemple un exemple des élèves qui ont dessiné le chemin du récit pour tenter de comprendre de quoi il retournait. Mais on peut faire des croquis et des dessins. Ça, écrire pour créer, imiter, relater, on connaît bien, ce sont toutes les écritures d'imagination, inventer des personnages, inventer la suite ou un épisode manquant, inventer une histoire du même type, légender une illustration, voilà, des tas d'éléments que l'on connaît bien. Je vous donne quelques exemples pour vous montrer que c'est faisable, récolter dans les classes, hein, par exemple là, un très beau mémoire de master formation de formateur, le plat du chien, un texte difficile qu'elle mettait en place avec une collègue de CM2 en lecture pas à pas. Les élèves ne comprenaient pas très bien l'histoire du chemin. Et vous voyez, donc, j'ai mis une flèche pour vous montrer. Ils dessinent et ils écrivent pour tenter donc de résoudre ce problème de compréhension. écrire pour tenir un carnet de lecture, garder en mémoire, voilà, hein, avec un très beau texte, c'est mon jour de chance que je vous recommande, qui est très très drôle, ou bien un Lucibet sur lequel nous avons beaucoup travaillé, on en garde trace, on dessine les personnages, on les nomme. Écrire pour exprimer son avis, très important, hein, si on, plus tôt nous les entraînerons et plus mieux ils sauront le faire, naturellement. Mais aussi écrire pour émettre des hypothèses. Donc ça, ce sont des collègues de La Rochelle qui m'ont donné ça il y a un peu plus d'une semaine. L'ogre dit, je prendrais bien un petit dessert. Qu'est-ce que ça peut être le petit dessert? Eh bien, on écrit à plusieurs mains. Ça peut être un enfant gras, ça peut être un bébé joufflu, une petite fille dodue et salée. Hein, c'est mignon quand même, voilà. Ce que je voulais simplement vous montrer, et je terminerai par cela, c'est que ce qui nous paraît important, et je pense que cela vous sera redit, pour nous, le lire-écrire, eh bien, c'est aussi mettre en relation ces différentes composantes. Et ce qui est apparu au cours de la recherche, ce sont bien sûr les variables pédagogiques, l'enseignement explicite, le climat, la différenciation. Ce sont des éléments qui sont extrêmement importants, naturellement, et qui jouent aussi pour la compréhension. Voilà, je m'arrête là. Et une petite image, il y a des enfants qui, dans la famille, lisent avec les parents. Et on discute, tu vois ce petit lapin là, qu'est-ce qu'il fait, mais qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il fait cela d'après toi? Et puis il y a des élèves, si l'école n'est pas là pour le faire avec eux, si l'école fait comme si ça allait de soi et ne fait qu'évaluer ce qu'ils ont compris, eh bien, qu'ils n'y auront jamais accès. Voilà, je m'arrête, merci.